Réparer l'effacement des femmes dans l'histoire, réparer les inégalités devant le panier de linge sale. Pour Titiou Lecoq, l'écriture est salvatrice. Elle permet de corriger, stabiloter les oublis, les lacunes, des obsessions qui la hantent et que l'écriture permet d'apaiser sous sa plume de journaliste, essayiste ou romancière. Son dernier ouvrage, Le couple et l'argent, paru chez l'Iconoclaste en 2022, n'y coupe pas. Elle règle ses comptes avec la place insuffisamment discutée de l'argent dans le couple et démontre pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes. On la retrouve dans cette saison 2 du Qu'est-ce qu'il lit du Monde des livres.
Qu'est-ce qu'il lit ?
Bonjour Titu Lecoq.
Bonjour.
Nous sommes au Salon du Livre du Mans et nous allons faire comme si nous étions face à votre bibliothèque. Alors il y aura, j'imagine, mais c'est une présomption, des livres d'Honoré de Balzac à qui vous avez consacré un de vos livres, des souvenirs et des confidences. C'est parti. Est-ce qu'il y a un livre d'Honoré de Balzac à qui vous réservez une place particulière ?
Ça fait un peu tordu parce que moi, c'est la correspondance de Balzac maintenant qui me fascine complètement. Mais je pense le fait d'avoir écrit sa biographie et d'avoir l'impression que c'est un ami à moi un petit peu. Du coup, quand je lis ses lettres, j'ai l'impression vraiment de qu'il me les adresse, quoi. Alors en vrai, il écrit à Evanska, pas du tout à moi. Mais et voilà, ça me fascine. Et je, en fait, c'est vraiment le côté par le petit bout de la lorgnette où il raconte genre aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça et j'ai des factures à payer et je sais pas comment je vais faire pour les payer. J'adore quand il me raconte ça.
Si vous deviez faire relire vos livres à quelqu'un, à un écrivain, une écrivaine, qui ce serait ?
Alors ça, si je devais les faire relire à quelqu'un, Simone de Beauvoir, mais c'est pas par manque d'imagination, c'est parce que vraiment c'est une figure qui est tellement importante pour moi, et notamment sur le travail d'écriture et de réécriture, elle corrigeait énormément. J'ai une édition, ils avaient sorti une édition du Deuxième Sexe, qui est en fait le manuscrit du Deuxième Sexe, donc vraiment écrit de sa main, avec les ratures, etc. Et je trouve qu'elle avait une langue, on n'en parle pas assez, mais le style d'écriture de Beauvoir, moi j'adore, je trouve ça très très beau. Donc voilà, ça aurait été pas mal de se faire relire par Beauvoir.
Qu'est-ce que vous aimez dans son style ?
Je trouve qu'elle est à un mi-chemin, elle a un style encore très classique, hein, parce que c'est début du XXe siècle, sa naissance, donc elle est à la croisée entre le XXe et le XIXe siècle. Et je trouve qu'elle est parfaitement lisible pour des jeunes gens de nos jours, mais avec une espèce de forme classique. Donc voilà, c'est ça qui me plaît, je crois.
Y a-t-il un livre que vous recommanderiez pour aimer lire ?
Alors, pour aimer lire, en fait, ça dépend à quel âge. Donc là, je vais encore répondre Beauvoir, mais moi, le livre qui a changé ma vie, c'est « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Je l'ai lu, j'avais 13 ans. Et ça a vraiment fondamentalement changé ma vision du monde et qui j'étais. Je n'étais plus la même après ce livre-là. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à le conseiller, mais je ne conseillerais pas à un gamin de 10 ans, par exemple.
De quelle manière ça a changé votre rapport à la vie ?
Alors, donc je suis en classe de 4e et j'ai séché le mercredi matin. Il y avait sport, EPS, et je détestais ça. Donc, je sèche l'EPS et je rentre chez moi. Et donc, je suis toute seule à la maison. Ma mère travaille. Et en fait, à mon époque, quand j'ai 13 ans, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les ordinateurs, il n'y a pas tout ça. Et donc, quand on est à la maison, bah, il y a la télé, j'allume la télé, il y a Motus, j'éteins la télé et je ne sais pas quoi faire. Et je traîne devant la bibliothèque et je vois ce titre, « Mémoire d'une jeune fille rangée ». Et le côté « jeune fille rangée », je me dis « ah, c'est un peu moi » et tout. Et donc, je prends le livre, je l'ouvre et là, je plonge dedans, quoi. Et en fait, ce moment d'ennui où je ne savais pas quoi faire, je pense que ouais, avec un smartphone, avec... En fait, je ne sais pas si ça existerait de nos jours. Si ça se trouve, j'aurais raté ma rencontre avec Simone.
Cette concentration, en fait, qui vous était facilitée ?
Pas que la concentration, le fait de se dire, en fait, là, vraiment, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie, donc je vais lire un livre. Et c'est moins évident de nos jours. Et après, ça a changé ma vie parce qu'elle m'a fait découvrir l'intelligence. C'est en fait, dans Mémoire d'une jeune fille rangée, elle raconte donc son enfance et son adolescence et elle l'analyse. Mais moi, quand j'ai 13-14 ans, je regarde Beverly Hills, l'analyse, ce n'est pas très évident. Et donc là, vraiment, elle me fait découvrir que quand on fait quelque chose, il y a parfois des raisons qu'on appellerait inconscientes ou sous-jacentes qui sont là et qu'on ne voit pas forcément. Et elle les met à jour, elle les décortique, elle se décortique elle-même. Et d'un coup, je me dis, ah, mais en fait, je pourrais me décortiquer moi-même et comprendre qui je suis. Et là, vraiment, j'ai eu l'impression qu'elle avait réussi à appuyer sur un bouton de mon cerveau et mon cerveau s'était brusquement mis en marche en lisant ce livre.
On en lit un bout ?
Alors, je ne sais même plus quel âge elle a à ce moment-là. Elle est encore assez jeune. Elle doit avoir 14-15 ans. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyée. Quand je me rendis compte que, dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle. Elle lavait des assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais le mur de la caserne des pompiers et d'autres cuisines où des femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour, le déjeuner, le dîner. Chaque jour, la vaisselle. Ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent nulle part. Vivrais-je ainsi ? Une image se forma dans ma tête avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendait jusqu'à l'horizon, diminuée selon les lois de la perspective, mais tous identiques et plats. C'étaient les jours et les semaines et les années. Moi, depuis ma naissance, je m'étais endormie chaque soir un peu plus riche que la veille. Je m'élevais de degré en degré. Mais si je ne trouvais là-haut qu'un morne plateau, sans aucun but vers lequel marcher, à quoi bon ? Non, me dis-je, tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes. Ma vie à moi conduira quelque part. Quand on lit ça, qu'on a 13-14 ans, bah,
sacrée promesse.
Ouais, je me dis, mais moi aussi, en fait, je veux pas essuyer. C'est drôle parce que c'est déjà tâches ménagères et que j'ai, par la suite, je me suis retrouvée quand même à faire la vaisselle et à écrire un livre dessus. Mais voilà, je me dis, ah oui, je veux me faire des promesses à moi-même. Je pense que les promesses qu'on se fait à l'adolescence à soi-même, elles les racontent hyper bien.
Vous faites des promesses quant à vos lectures, des livres que vous promettez de lire avant de mourir, par exemple.
Oui, tout à fait. Je fais un truc que je tiens comme promesse. J'ai beaucoup lu Balzac et assez peu Zola pendant longtemps. Et donc, je lis un roman de Zola chaque année. C'est mon truc. Donc voilà, j'ai 42 ans cette année. J'ai lu Au bonheur des dames. Et bah, c'est vachement bien.
Et c'est fait comment ce déclic?
Et c'est venu parce que bah, quand j'ai sorti Honoré et moi, en fait, j'ai découvert que chez les littéraires en France, il y a vraiment genre les Balzaciens et les fans de Zola. Et on m'a dit « Ah, mais Zola, quand même, c'est intéressant. » Et je dis « Ouais, bof. » Et donc, voilà. Donc, je me suis dit « Je vais mieux découvrir Zola. » Donc, je m'en fais un par an. Et d'après mon espérance de vie, normalement, ça va. Je devrais avoir lu tout Zola avant ma mort.
Une soirée avec Balzac, une soirée avec Zola. Imaginons un cadre. Ça vous plairait? Ou est-ce qu'il y en a d'autres que vous rajouteriez?
Alors, bah, une soirée avec Balzac, mais ça, c'est mon, mais c'est de l'ordre vraiment du fantasme. Ça me met complètement en transe. pendant longtemps, j'ai eu un petit tropisme sur Jean-Jacques Rousseau, qui pourtant n'était pas vraiment un ami des femmes, mais je pense que les confessions étaient, moi, mon année de bac littéraire, c'est les confessions étaient au programme obligatoire. Et il y avait les quatre premiers livres. Et en fait, j'ai lu l'intégralité des confessions. Et on a vraiment, quand on finit tout ça, ça prend quand même un mois de sa vie, on a l'impression de connaître Jean-Jacques hyper bien. Et donc, j'avais une espèce de proximité. Donc voilà, mais il y a des fois, j'ai l'impression de pouvoir parler avec ces gens. Enfin, Balzac, j'ai l'impression d'avoir des discussions avec lui. Et Simone de Beauvoir aussi. Mais elle, je rêve d'elle aussi. C'est une des rares personnes mortes dont je rêve.
On peut vous demander les rêves, si vous en souvenez.
Je la rencontre ou on doit faire un truc toutes les deux, mais comme si c'était une copine. Et quand j'étais petite, enfin, petite adolescente, c'était vraiment comme une amie. Et le fait que la lecture, en fait, c'est vivant, la voix qui nous parle est vivante, bah voilà, ça, je me disais, bon, bah, techniquement, elle est morte, mais en fait, c'est anecdotique dans mon histoire avec elle.
Vous nous avez parlé de livres que vous avez lus au collège, au lycée. Est-ce qu'il y a un livre d'enfance que vous aimeriez relire ?
Alors, oui, j'ai vachement de chance. C'est que les livres d'enfance que je voulais lire depuis longtemps, et ben, en fait, je les relis en les lisant à mes enfants. Et ça, c'est super. Et
donc, à voix haute, ça change. Donc,
on fait beaucoup, beaucoup de lectures à voix haute. Et je me dis qu'en fait, je vais continuer très longtemps. Ils savent lire tout seuls, mais en fait, c'est quand même un truc qui reste, qu'on partage ensemble. Et donc, un livre que j'ai adoré quand j'étais petite et que je vais bientôt leur lire, c'est Le fantôme de Canterville de Oscar Wilde. Et je me dis, voilà, au moment de Halloween, la Toussaint, etc., c'est le bon moment pour lire ça.
Avant de vous demander de lire un extrait, ça change quoi le fait de lire à voix haute ?
Quand j'écris, à un moment, je relis à voix haute pour entendre si c'est fluide ou pas. Et du coup, lire des auteurs que j'aime à voix haute me permet de me dire « Ah, cette phrase-là est particulièrement réussie, celle-là, elle était un peu moins bien faite. » Et de lire aux enfants à voix haute, ça permet de, c'est génial, ça permet de commenter, d'expliquer, mais c'est tout simple, hein, expliquer le vocabulaire, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment un exercice hyper important. Alors, pour Le fantôme de Canterville, en fait, donc comme je vais leur relire, je ne l'ai pas encore relu, mais je me suis dit que j'allais prendre le début.
Je ne sais pas la primeur, donc.
Ouais. Mais vraiment, j'ai le souvenir d'avoir j'ai 10 ans et une fascination pour ce livre. Et vraiment de me dire, OK, c'est définitivement ça que je veux faire dans la vie, quoi. Écrire des livres, comme Oscar Wilde. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain acheta le domaine de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une folie, car il n'y avait pas le moindre doute que le manoir fût hanté. À tel point d'ailleurs que Lord Canterville lui-même, très scrupuleux en matière d'honneur, avait estimé de son devoir d'en dire un mot à M. Otis quand ils en étaient venus à discuter des conditions de vente.
Est-ce qu'il y a un livre dont vous aimeriez changer la fin ? On parle beaucoup des débuts de livre, des premières pages, mais sur les dernières pages.
Alors, je sais pas, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir fait ça, mais pendant très longtemps, je réécrivais la fin des livres quand je n'étais pas satisfaite. Ou quand le livre était vraiment super, j'écrivais une suite parce qu'il était super, donc j'en voulais plus. Et donc, j'ai commencé mes tout premiers écrits, c'était réécrire la fin des livres de la Comtesse de Ségur, dont j'étais très, très fan. Mais la fin, je trouvais qu'elle ne mariait jamais les gens avec qui il fallait. Et par exemple, Sophie se mariait pas avec son cousin Paul. J'étais trop déçue, donc je réécrivais ça. Les quatre filles du Dr. March, c'est pareil. Jo épousait pas le voisin qu'elle aurait dû épouser, mais un vieux prof tout pourri, donc j'avais réécrit. Voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment fait petite.
Ouais, est-ce que des lecteurs vous ont déjà soumis des fins alternatives à vos livres ?
Non, alors non. Ça serait bizarre, genre. Ouais, franchement, c'était bien votre livre, mais la fin était un peu bâclée, je vous l'ai refaite. Non, personne ne m'a fait ça, mais si quelqu'un me faisait ça, je pense que je m'inquiéterais un peu.
Et justement, vous, quand vous écrivez la fin, vous y pensez à quel moment ?
Alors, c'est différent pour les essais et pour les romans, mais les romans, c'est vraiment, si j'ai un conseil pour les gens qui veulent écrire, ayez la fin de l'histoire avant de commencer à écrire. Sinon, vous n'arriverez pas à finir le livre.
Est-ce que vous avez un livre dont tout le monde parle, qui est assez reconnu et qui, vous, ne vous a pas particulièrement emballé ?
Alors, j'ai un problème avec Yourcenar. Les Mémoires d'Adrien ou L'œuvre noire ou que j'ai un vrai problème, mais c'est physiologique. Je crois que j'ai décidé que c'était à périr d'ennui et il suffit que je lise les premières phrases. J'ai ah non, c'est je peux pas. Donc voilà. Alors que vraiment, il y a plein de gens que j'apprécie qui me disent mais son style c'est merveilleux et non, n'arrive pas.
C'est l'ennui vous qui arrête la lecture. Vous avez tendance à arrêter, vous dites « allez, je continue 20 pages ». Vous êtes quel type de lectrice sur ce point ?
Alors, j'essaye un peu de continuer, mais après, je suis de la génération qui a lu Pénac toute petite, et donc les droits du lecteur, etc. Et vraiment, moi, je me souviens du jour où, voilà, j'ai compris, on m'a dit « ah non, mais le lecteur a le droit de ne pas finir un livre ou de sauter des pages », et j'ai fait « ah, ok ». Et donc, ouais, ça, je me le permets.
Justement, petite, quel est votre premier souvenir de lecture ?
Le premier souvenir un peu important, c'est la Comtesse de Ségur pour une chose très précise. C'est qu'avant, j'ai le souvenir de lire, par exemple, la Bibliothèque Rose, j'isais les Candy ou les Inspecteurs Gadgets, qui en fait étaient des séries, des dessins animés adaptés en livres. Et en fait, je lisais un Candy, je lisais l'histoire de Candy, point barre. La Comtesse de Ségur, c'est la première fois où j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui écrivait les livres. Et en fait, je ne lisais pas juste les histoires de Sophie et Madeleine et Marguerite. Ah, puisqu'elle a écrit d'autres livres, j'allais lire les autres livres qu'elle a écrits, même si ce n'est pas les histoires de Sophie. Et donc, cette découverte qu'il y avait une figure d'autrice derrière, ça a été vraiment important. Parce que du coup, j'ai pu me dire, ah, mais donc c'est un métier, mais ça m'intéresse.
Ça parlait de lecture dans votre famille ?
Il y avait une énorme bibliothèque chez ma mère, tout un mur du salon, c'était les livres. Et j'ai une grande sœur et ma mère l'a poussée à lire, elle ne lisait pas. Et ma sœur s'est mise à lire quand j'étais petite. Et c'était super parce qu'on avait un décalage qui faisait qu'elle avait 20 ans et moi, j'étais beaucoup plus petite. Et elle me lisait ce qu'elle lisait en me disant « c'est incroyable ». Et donc, je devais avoir 10 ans quand elle m'a lu « La métamorphose de Kafka ». Oh, c'est fou, attends. Et elle m'a lu « La peste » de Camus parce qu'elle trouvait ça incroyable. Et elle n'avait pas du tout ce filtre de se dire oh, « ben, c'est pas trop pour une enfant ». Et donc voilà, donc c'était très valorisé effectivement de lire chez moi. Mais pas d'écrire des livres. Quand j'ai annoncé que je voulais écrire des livres, c'était un peu genre, non. Nous, on lit les livres que les autres gens écrivent. Mais nous, on ne fait pas partie des gens qui écrivent.
Donc, ils lisent vos livres. Comment c'est perçu maintenant ?
Maintenant, tout le monde est très content et trouve ça formidable. Mais il y a un côté un peu délicat, un peu compliqué de passer de l'autre côté.
Est-ce que vous avez un livre récent que vous avez envie de lire ?
J'ai une liste tellement longue de livres qu'il faut que je lise que je n'ai pas encore lu.
Qui caracole au-dessus de votre liste pour l'instant ?
Alors, tradition, je vais lire le Jonathan Franzen qui vient de sortir parce que j'ai lu tous les Jonathan Franzen Et c'est vraiment... avant, j'adorais. Maintenant, ça m'énerve. Je suis là, ça m'énerve. Mais je vais quand même le lire. Et voilà, je vais peut-être m'énerver en disant, oh, quand même, ça m'énerve.
Et écrire une fin alternative.
Oui, ou réécrire tout le livre s'il m'énerve trop.
Merci, Titu Lecoq. Je rappelle deux de vos ouvrages publiés aux éditions de l'Iconoclaste, Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, ainsi que Le couple et l'argent. Retrouvez tous les épisodes du Qu'est-ce qu'il lit sur lemonde.fr et les plateformes de streaming. À bientôt et bonne lecture.